L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
août 1945. Le temps est clair. Le ciel bleu, limpide, sans un nuage. Une chaude journée d'été s'annonce à Hiroshima. Dans le ciel passent des avions de reconnaissance américains, mais aussi des B-29, et notamment celui qui fait des relevés météorologiques. Les Japonais ne le remarquent presque plus. Depuis le début de l'année, ces raids, qui ne sont pas meurtriers, sont devenus réguliers. Ce jour-là, pourtant, ce n'est pas la météo qui motive cette sortie. Le B-29, super forteresse qui survole la ville jusqu'au point zéro, libère à 8h15 une arme d'une puissance de 13 000 tonnes de TNT. À 570 mètres d'altitude, la première bombe atomique explose, faisant 75 000 morts en une seule seconde. 8h15 à Hiroshima, le 6 août 1945. Le monde vient d'entrer dans l'ère atomique. 8h15, l'heure H de mon histoire. À l'époque, Hiroshima est une petite ville en grande partie construite en bois. Les immeubles sont bas car au Japon, les tremblements de terre sont fréquents. Les grandes avenues se divisent en petites ruelles qui forment un labyrinthe où les gamins aiment jouer. Les jardins sont nombreux, puis les parcs aussi. Mais la ville, fondée en 1589 et peuplée de 344 000 habitants, est aussi un centre militaire important. Pendant la première guerre sino-japonaise, en 1894, elle a servi de base logistique à l'armée impériale. En 1945, elle est le centre stratégique de la défense terrestre et aussi un important centre industriel. Quelques 90 000 soldats y vivent, attendent le débarquement américain dans le sud du Japon. La mort, pourtant, ne vient pas de la mer, mais des airs. Quand le bombardier B-29, baptisé Enola Gay, largue la toute première bombe atomique. C'est l'aboutissement d'un projet conçu des années plus tôt par les États-Unis. Et c'est aussi, pensent les militaires américains, la seule manière de faire plier le Japon et de l'obliger à signer sa reddition. Il n'en sera rien. Nous allons y revenir. Mais d'abord, essayons de comprendre ce qui a mené les États-Unis à rayer de la carte une ville entière. En une seconde à peine, en ce matin du 6 août 1945. Pour cela, il faut remonter le temps, 4 années exactement. Nous sommes donc en 1941. Les États-Unis ne prennent pas une part active au conflit qui fait rage en Europe et déborde jusque sur le front russe. Trop de mauvais souvenirs, charriés par la Grande Guerre, celle de 14-18, sont encore présents dans les mémoires. On ne veut plus envoyer ses fils, ses frères se faire tuer si loin de chez eux. Seulement voilà. Le 7 décembre 1941, le Japon forme avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste le pacte tripartite et le pays du soleil levant envoie ses avions sur Pearl Harbor. La principale flotte américaine du Pacifique, basée à Hawaï, est en partie détruite. Les morts se comptent par milliers. Le président américain Franklin Roosevelt dénonce le jour d'infamie et le 8 décembre déclare la guerre au Japon. Affirmer que la bombe atomique qui, le 6 août 1945, détruira Hiroshima est une forme de revanche n'est certainement pas exagéré, même si les recherches sur cette nouvelle arme avaient commencé dès 1939, soit 2 ans avant les tragiques événements de Pearl Harbor. En effet, en août 1939, 2 physiciens de renom, Léon Szilard et Eugène Wigner, adressent au président Roosevelt une lettre dans laquelle ils l'informent que des travaux scientifiques récents permettent d'envisager la réalisation de bombes d'un nouveau type et extrêmement puissantes. Cette nouvelle arme déclencherait une réaction en chaîne grâce à de grandes quantités d'uranium. Les deux hommes ne manquent pas de souligner que l'Allemagne serait elle aussi parvenue aux mêmes conclusions. En gros, ils informent le président américain qu'il ne faut pas perdre de temps, histoire de donner plus de poids à leur courrier, les 2 physiciens font appel à un certain Albert Einstein, qui finalise la lettre et la signe. Pour être les premiers à pouvoir fabriquer l'arme atomique, les scientifiques soulignent aussi qu'il faudra se procurer de grandes quantités de minerais d'uranium afin d'accélérer les travaux de recherche. Un comité consultatif sur l'uranium est créé, c'est le comité S1. En novembre, il informe Roosevelt que l'uranium pourrait être la source possible de bombes avec une puissance de destruction largement supérieure à tout ce que nous connaissons. Au sommet de l'État, on se réjouit. Le 9 octobre 1941, soit 2 mois avant que le Japon attaque les États-Unis, Roosevelt approuve le lancement du programme atomique. Les choses sérieuses ne vont toutefois commencer que le 18 décembre. Une fois l'onde de choc de Pearl Harbor passée, une réunion du comité S1 est organisée. Très vite, tout ce que les États-Unis et la Grande-Bretagne comptent de scientifiques et de physiciens se met au travail. Parmi eux, Harold Urey, Ernest Lawrence, James Conant, Lyman Briggs, Edgar Murphy et Arthur Compton. Tous des sommités dans leur domaine, même si, avouons-le, leurs noms se sont perdus dans la grande histoire au fil des décennies. Il y en a un pourtant que l'on n'oubliera pas. C'est Robert Oppenheimer, souvent surnommé le père de la bombe atomique, car c'est à lui qu'Arthur Compton fait appel quand il s'agit de réfléchir concrètement à cette nouvelle arme en devenir. Arrêtons-nous quelques instants sur Oppenheimer. Robert Oppenheimer naît le 22 avril 1904 à New York, dans une famille juive non pratiquante et très aisée. C'est un étudiant brillant, polyglotte, qui maîtrise l'anglais bien sûr, mais aussi l'allemand et le français. Il traduit le latin comme personne et s'intéresse au sanskrit. Oppenheimer découvre les minerais grâce à son grand-père. Il est fasciné. Il se passionne aussi pour la voile qu'il pratique en solitaire. Il faut dire qu'il aime ça, la solitude. Ses études le mènent à Harvard, où il entreprend un cursus de chimie. Mais c'est presque trop facile pour le brillantissime élève qu'il est. Alors, il ajoute une dose de chimie, de la littérature française et des mathématiques. Il obtient son diplôme en 3 ans, au lieu de 4, avec une mention honorifique. Ensuite, direction l'Angleterre, dans la prestigieuse université de Cambridge. Mais c'est une terrible déception pour Robert Oppenheimer, 21 ans à peine. Il ne se sent pas à la hauteur à Cambridge, où il se retrouve à travailler dans le sous-sol d'un laboratoire. Son manque de relations sociales, de vie amoureuse, le font plonger dans la dépression. Son passage en Angleterre a toutefois une vertu. Il lui révèle sa vocation. Un théoricien de la physique, voilà ce qu'il est. Après un séjour aux Pays-Bas, puis en Allemagne, Oppenheimer rentre aux États-Unis en 1927. À Göttingen, il a vu la montée de l'antisémitisme et ça lui a fait peur. Beaucoup de scientifiques, d'ailleurs, commencent à quitter l'Allemagne et plus largement l'Europe pour venir trouver refuge en Amérique. Jouissant d'une situation des plus convenables, Robert Oppenheimer leur vient en aide. Ce qui lui vaut l'ouverture d'un dossier par le FBI en 1941. Car certains de ces hommes sont de gauche ou ont montré des affinités avec les idées soviétiques. Mais revenons, si vous le voulez bien, à la course à l'armement atomique à laquelle Oppenheimer va prêter son concours. En 1942, les États-Unis lancent le projet Manhattan, dont les bases se mettent en place depuis 1939 donc. Après l'attaque de Pearl Harbor, les choses s'accélèrent. La Grande-Bretagne et le Canada en sont partie prenante. Ce projet titanesque va employer jusqu'à 130 000 personnes et coûter 2 milliards de dollars. Car en plus de la recherche scientifique, des matières premières, à commencer par l'uranium, il faut aussi construire toutes les infrastructures et la trentaine de sites nécessaires pour les accueillir. Le projet est piloté dans un premier temps depuis des bureaux new-yorkais, d'où son nom de « Projet Manhattan », une appellation discrète qui cache bien des secrets. Leslie Groves, l'homme à qui l'on doit la récente construction du Pentagone, est nommé commandant du projet. Il jette son dévolu sur Oak Ridge, dans le Tennessee, pour installer ses premiers centres de recherche. 1000 familles sont expropriées et Oak Ridge devient une zone d'exclusion totale où personne ne peut entrer sans la permission de l'armée. Des maisons, des dortoirs, des roulottes et des cabanes sont construites pour le personnel. La ségrégation raciale y est pratiquée sans que personne y trouve à redire. En septembre, Groves doit trouver un directeur pour la conception de la bombe, le projet Y. Ce sera Robert Oppenheimer. Les infrastructures d'Oak Ridge, trop près des villes, ne permettant pas d'accueillir les expériences, c'est au Nouveau-Mexique que l'on installe les labos, à Los Alamos. Et c'est là que deux modèles d'armes vont être conçus. On y travaille tout à la fois à enrichir l'uranium et à faire avancer la recherche sur le plutonium, découvert en 1940. Pour la matière première, on dispose de plusieurs sources. À l'époque, on connaît quatre gisements importants d'uranium, dans le Colorado, au Canada, au Congo belge et en Tchécoslovaquie. Ce dernier, hélas, n'est pas aux mains des Alliés. La Belgique, par l'entremise d'Edgar Sanguier, alors directeur de la Société Générale de Belgique et directeur de l'Union Minière du Haut-Katanga, va fournir de la matière première au projet Manhattan. Si dès 1943, les scientifiques emmenés par Oppenheimer, mais sans Einstein qui était pacifiste, arrivent à la conclusion qu'une bombe à fission nucléaire est possible, la production de plutonium est nettement insuffisante. On travaille donc d'arrache-pied à sa fabrication dans les années qui suivent. Enfin, en juillet 1945, tout est prêt pour un essai grandeur nature dans le désert du Nouveau-Mexique, sur le site d'Alamagordo. La bombe au plutonium est hissée sur une tour de 30 mètres. À 5h30, le 6 juillet, l'explosion d'une puissance équivalente à 20 000 tonnes de TNT résonne dans le désert, laissant un cratère de 76 mètres de diamètre. L'onde de choc est perçue jusqu'à 160 km de là. Le nuage atomique monte jusqu'à 12 km. C'est une réussite. « Fini la guerre !» s'exclame Leslie Groves, le commandant du projet. Avec un ou deux de ses engins, le Japon est liquidé. Mais Oppenheimer prend la mesure du monstre qui vient d'être créé. Citant le poème épique hindouiste Bhagavad Gita, il dit « Je deviens la mort, le destructeur des mondes ». Entre janvier 1943 et juin 1945, 62 personnes perdront la vie sur le projet Manhattan qui fera en outre près de 3900 blessés. Oui, mais c'est moins que l'industrie privée, relèveront les plus enthousiastes.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte comment les États-Unis ont tout mis en œuvre pour être les premiers à créer l'arme atomique et comment ils s'en sont servis le 6 août 1945 sur la ville d'Hiroshima. Tandis que sur le plateau du Nouveau-Mexique, on s'affaire à la création de l'arme atomique, dans le Pacifique, les soldats américains souffrent de la chaleur et de l'humidité. On se bat pour des bouts de rochers, des îles minuscules. Il faut reconquérir, les uns après les autres, des archipels qui s'étendent parfois sur des milliers de kilomètres entre l'Australie et le Japon. Le 19 février 1945, les Marines débarquent à Iwo Jima. Il leur faudra un mois pour se rendre maître de 21 km², c'est dire l'âpreté des combats. Clint Eastwood y consacrera d'ailleurs deux films, Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima. Peu de temps après, les 9 et 10 mars, les bombardiers B-29 fondent sur Tokyo, crachant des tonnes de bombes incendiaires sur la capitale nippone. 40% de la ville, en grande partie construite en bois, sera détruite. On dénombrera 72 000 morts, 370 000 familles sans abri. Mais le Japon résiste, encore et toujours. Même si les dirigeants militaires savent déjà que leur avenir n'est plus vraiment entre leurs mains, en avril 1945, après 92 jours de combat, 100 000 civils sont morts. Dans les rangs militaires, on compte plus de 100 000 morts et blessés. Durant l'été 1945, alors qu'Hitler s'est donné la mort le 30 avril et que l'Allemagne a signé sa capitulation le 8 mai, on convoque une conférence internationale où l'on évoque le sort du Japon. Y sont présents Winston Churchill, Joseph Staline et Harry Truman. C'est lui qui a succédé au bien-aimé président Roosevelt, mort le 12 avril d'une hémorragie cérébrale. La conférence de Potsdam, c'est ainsi qu'on l'appelle, s'ouvre le 17 juillet, soit un jour exactement après l'essai grandeur nature de la bombe atomique qui a eu lieu dans le désert du Nouveau-Mexique. Truman peut donc évoquer pour la toute première fois avec Staline l'existence d'une nouvelle arme qui va tout changer. Staline se montre attentif. Il sourit. Ce que lui raconte Truman, il le sait déjà. Ses espions ont fait du bon travail. Tout est donc en place pour que bientôt sonne leur hache. Mais si la bombe a fait ses preuves, reste qu'il faudra l'acheminer à des milliers de kilomètres de là, à Tinian, sur les îles Mariannes, dans l'est des Philippines. Tinian a été conquise en juillet 1944 et abrite la plus grande base aérienne du monde. Pour le largage, il faut aussi concevoir un avion capable de transporter le « monstre » fabriqué au Nouveau-Mexique. Dès novembre 1943, les États-Unis y travaillent. L'opération Silver Plate va transformer les avions B-29 en super fortress afin qu'ils puissent abriter dans leur ventre Little Boy, petit nom amical, donné à l'engin de mort. C'est le 509e escadron de bombardement qui en a la charge. Il est dirigé par Paul Tibbets. Et retenez bien ce nom. Les composantes de Little Boy arrivent sur l'île de Tinian le 26 juillet, à bord du cuirassé l'USS Indianapolis. L'autre bombe, Fatman, non assemblée, arrivera à bord d'un B-29. Les Américains sont prêts. Ils ont retenu quatre villes cibles. Il s'agit de Kokura, Hiroshima, Niigata et Kyoto. Cette dernière, trop chargée d'histoire et de spiritualité, sera écartée. On opte alors pour Nagasaki. Le Japon refusant de se rendre et de déposer les armes, l'issue devient de plus en plus claire. On va se servir de la bombe atomique. Une guerre classique, pour que la victoire sur le Japon soit totale, coûterait 1 million de soldats américains, entend-on à Washington. Malgré une pétition signée par de nombreux scientifiques qui enjoignent les dirigeants américains à ne pas utiliser l'arme atomique sur des civils, la décision militaire est prise. Les responsables du projet sont arrivés sur la base de Tinian, amenant avec eux des photos de l'explosion qui a eu lieu dans le désert. On ne prononce pas le mot « bombe atomique ». On leur montre tout simplement ce qui se passera si on décide de la lancer. Le 5 août, dans la soirée, le conditionnel n'est plus de mise. Quelques heures avant le décollage des B-29, le commandant Paul Tibbets réunit ses hommes pour leur annoncer qu'on va le lendemain larguer une bombe au-dessus du Japon. Les soldats ne connaissent toujours pas la nature de l'explosif. Après ce petit speech, c'est au tour de l'aumônier, Georges Zabelka, de prendre la parole. « Seigneur, nous te prions pour que la fin de la guerre vienne bientôt et que, de nouveau, nous connaissions la paix sur terre, dit-il. Puissent les hommes qui vont voler cette nuit demeurer sous ta sainte garde et nous revenir sains et saufs. C'est donc avec la bénédiction du Tout-Puissant que l'on va aller détruire une ville entière. Quand il entendra les récits d'horreur que lui feront les témoins des explosions, Georges Zabelka sera déchiré. Il décidera de rester au Japon et d'apporter son aide aux victimes. Nous ne pouvons plus envisager la guerre comme une solution, parce que les risques surpassent toujours les bénéfices qu'elle est supposée apporter, dira-t-il, des années plus tard. Mais pour l'heure, le colonel Paul Tibbets, 30 ans, se prépare. Ce pilote chevronné, qui s'est distingué dans la lutte anti-sous-marin, qui a participé au premier bombardement de jour en Europe, a été choisi pour mener le raid. De manière symbolique, il a, le 5 août, baptisé son avion. Il lui a donné le nom de sa mère, Enola Gay. À 2h45, il décolle de Tinian pour un vol de 3200 km, direction Hiroshima. Une fois dans les airs, il laisse les commandes au copilote et gagne l'arrière de l'appareil. Il prend un café avec l'artilleur et lui révèle enfin la nature de son chargement. « C'est une bombe atomique », lui dit-il tout simplement. Le temps est dégagé sur Hiroshima et Tibet n'a aucun doute. Le bombardement aura bien lieu. Du reste, pour lui, c'est son quotidien. Décoller, voler, atteindre le point de largage, tout ça, c'est de la routine, dit-il. Et il ajoutera, on n'a rencontré aucune opposition, ni feu ennemi. On était concentré sur le fait de larguer la bombe. Deux autres B-29 accompagnent l'Inolaguet. L'un porte des instruments de mesure, l'autre des caméras. Plus tôt, un avion de reconnaissance météo est parti en éclaireur afin de déterminer l'ultime choix de l'objectif à atteindre. C'est cet avion-là que les enfants qui jouent dans les rues d'Hiroshima aperçoivent peu avant 8 heures du matin. Les sirènes retentissent dans la ville, mais de cela aussi, on a l'habitude à Hiroshima. Le révérend Duceroy est en train de dire sa messe. « J'ai interrompu l'office. Tout le monde s'est retiré », confiera-t-il en 2005 au journaliste Michel Pomared. « Je suis allé dans ma chambre, prendre quelques affaires, ma mallette de secours. » Dans le ciel, il voit l'avion météo de l'armée américaine. À 8 heures, on sonne la fin de l'alerte et le révérend rentre chez lui. Dans le cockpit de son avion, Paul Tibbets reçoit un message codé « Y2Q2P2C1 ». Oui, en un peu plus clair, cela signifie nuage bas 1 à 3 dixièmes, nuage moyen 1 à 3 dixièmes, nuage haut 1 à 3 dixièmes. Les conditions météo sont donc bonnes. Et donc cette fois, ça y est. On approche de la zone de largage, dit Tibbets. 31 000 pieds au-dessus d'Hiroshima, on s'apprête à larguer. À 8h15. La première bombe atomique est expulsée du ventre d'Enolaguet. Après une chute libre de 43 secondes, à 570 mètres du sol, elle explose, libérant ce que certains compareront à un éclat plus clair que 1000 soleils, une énergie équivalente à 20 000 tonnes de TNT. Il est 8h15.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, nous sommes au cœur d'Hiroshima, là où pour la première fois le 6 août 1945, on a utilisé la bombe atomique, forçant le Japon à signer sa capitulation. Une autre ville va connaître le même sort, trois jours plus tard, Nagasaki. Sa mission accomplie, Paul Tibbets en informe l'état-major. La bombe a été larguée. L'avion a viré de bord, conformément aux instructions, dit-il simplement. Il reprend le contrôle manuel de l'appareil, il fait demi-tour et met un maximum de distance entre lui et l'explosion. Après avoir senti l'onde de choc, il sait que tout s'est bien passé puis revient jeter un coup d'œil. Le spectacle qui nous attendait était bien au-delà de nos attentes. Confiera-t-il plus tard. Un nuage de poussière, de débris, surplombé du champignon atomique. En dessous, les décombres d'Hiroshima. Et dans ces décombres, des milliers, des dizaines de milliers de corps sans vie. Les survivants, eux, sont hagards, noircis de fumée, brûlés. On croise des hommes et des femmes dont les yeux sont sortis de leurs orbites sous la puissance du souffle de la bombe. La ville entière semble avoir été engloutie, balayée. Le révérend Duceroy s'évanouit. Quand il se réveille, il est dehors. Il ne sait pas comment. Le jour s'était transformé en nuit, racontera-t-il. Avec une cinquantaine d'autres personnes, le révérend se réfugie dans un parc qui ne tarde pas à être pris dans un incendie. C'est une piscine qui leur sauvera la vie. C'est là qu'ils attendent que le feu passe. Des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants fuient, tentent de rejoindre les villes voisines. Ils sont en haillons, ils ont soif. Mais il ne faut surtout pas boire l'eau des fontaines qui sont toujours debout, ni celle des robinets. Tout ici est désormais contaminé. Les enfants fuient vers les abris, comme les adultes auront dit de le faire. Mais il n'y en a pas assez dans la ville pour accueillir tout le monde. Le ciel est gris, plein de nuages, puis une pluie noire se met à tomber. Keiji Nakazawa a 6 ans lorsque la bombe atomique touche sa ville en 1945. Le petit garçon a 3 frères et 2 sœurs. Toute la famille est à la maison quand survient le drame. Les murs s'effondrent sous la puissance du souffle. L'une de ses sœurs meurt rapidement. Son petit frère, lui, a la tête coincée sous une poutre. Sa maman a réussi à dégager ses jambes. Mais le reste du petit corps ne peut pas suivre. « Maman, maman, j'ai mal !» dit-il. Puis, « Il fait chaud, j'ai chaud !» Le père, à peine vivant, exhorte son épouse, enceinte, à sauver le petit, mais en vain. « Maman, ça brûle !» dit-il enfin. Ce sont les derniers mots que Keiji Nakazawa entendra avant qu'il fuit avec sa mère. Devenu dessinateur de manga, il n'oubliera jamais le drame vécu en 1945 et y consacrera une grande partie de son œuvre avec la série Gen d'Hiroshima, publiée entre 1973 et 1985. J'ai fui la bombe atomique pendant des années, mais quand ma mère est morte, que même ses os ont disparu, j'ai senti monter la colère en moi, expliquera-t-il dans une interview. Keiji Nakazawa est décédé en 2012 à Hiroshima. Hiroshima brûlera pendant près de 4 jours. Dans les bulletins de propagande américaine, on se réjouit que la 7e ville du Japon ait été en partie rasée par la bombe. 30% de la population a été tuée par des rayons gamma radioactifs. Les autres, par la chaleur des radiations qui ont montré leurs effets de manière monstrueuse. En effet, plus rien ne tient debout, à part quelques édifices construits en béton armé qui ont résisté au choc. C'est le cas du dôme de Genbaku, devenu le mémorial de la paix d'Hiroshima. Malgré la bombe atomique, le Japon ne plie pas et refuse de capituler. Le 8 août, en violation du pacte de non-agression nippo-soviétique signé en 1941, l'Union soviétique déclare la guerre au Japon, seul, désormais, contre le monde entier. Le 9 août, les États-Unis décident donc d'attaquer une deuxième cible japonaise. Dans un premier temps, c'est vers Kokura que se dirigent les avions américains. Mais la couverture nuageuse est trop importante pour procéder au largage. Alors on se rabat sur Nagasaki, située sur l'île de Kyushu. Fondée au XVIe siècle, la ville est devenue un port sous la houlette des Portugais qui y accostent. Elle connaît son essor grâce aux explorateurs européens qui emmènent avec eux des jésuites. Une mission s'y implante. Ce seront ensuite les Hollandais qui y feront commerce. Et enfin, à partir de 1853, les Américains qui feront de Nagasaki un port libre. En 1945, la ville compte 195 000 habitants. Ce matin du 9 août, comme ceux d'Hiroshima quelques jours avant eux, ils ne voient pas la menace venir du ciel. À 11h02, le B-29 Super Fortress piloté par Charles Suinet, parti lui aussi de la base de Tinian, largue la bombe Fatman sur Nagasaki. Elle explose à 580 mètres d'altitude, à la verticale du quartier Urakami. Fatman est une bombe au plutonium dont la puissance est estimée à l'équivalent de 21 000 tonnes de TNT. Elle ressemble, trait pour trait, à celle utilisée pour l'essai Trinity, moins d'un mois plus tôt. 35 000 personnes sont tuées instantanément par l'explosion. Les dégâts, toutefois, sont moins importants qu'à Hiroshima grâce à la topographie de la ville. Le site est plus ouvert, les effets de la bombe sont moins dévastateurs. Le révérend Duceroy, qui est toujours à Hiroshima, raconte que le 11 août, tandis qu'il aide à soigner des blessés dans un dispensaire de fortune, une rumeur court. Elle prétend que les Japonais ont eux aussi la bombe atomique et que l'une d'elles vient d'être larguée sur San Francisco. Les blessés ont ri. Ils ont entonné des chants de victoire, se souvient-il. Bon, tout cela est faux, évidemment. Le 12 août, l'empereur Hirohito, 44 ans, informe la famille impériale de sa décision. Le Japon va se rendre. Le 14, une tentative de mutinerie éclate. Un petit groupe de militaires opposés à la reddition tente de subtiliser le disque sur lequel l'empereur a enregistré son discours. La rébellion est matée et le lendemain, 15 août, l'enregistrement est diffusé sur les ondes de la NHK, la radio japonaise. C'est la première fois que les Japonais entendent la voix de l'empereur, sans comprendre, dans un premier temps, ce qu'il raconte. Le souverain s'exprime en effet dans un japonais archaïque, uniquement utilisé par l'ancienne cour impériale. Et ce n'est pas pour leur annoncer de bonnes nouvelles. « À nos bons et loyaux sujets, » commence Hirohito. Après avoir mûrement réfléchi aux tendances générales, prévalant dans le monde et aux conditions actuelles de notre empire, nous avons décidé de régler, par une mesure exceptionnelle, la situation en cours. Nous avons ordonné à notre gouvernement de faire savoir au gouvernement des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Chine et de l'Union soviétique que notre empire accepte les termes de leur déclaration commune. Ouais, en d'autres mots, le Japon capitule et accepte la défaite. L'empereur ajoute : l'ennemi a mis en œuvre une bombe nouvelle d'une extrême cruauté dont la capacité de destruction est incalculable et décime bien des vies innocentes. Si nous continuons à combattre, cela entraînerait non seulement l'effondrement et l'anéantissement de la nation japonaise, mais encore l'extinction complète de la civilisation humaine. Voilà. Voilà, la Seconde Guerre mondiale est finie. Elle fera pourtant encore des morts, car si au Japon, certains, après avoir entendu le discours de l'empereur, s'en retournent à leurs occupations, d'autres vivent très mal cette capitulation. Certains officiers de l'armée choisissent le suicide. Sur une base militaire au nord de Nagasaki, des officiers furieux extraient 16 aviateurs américains de la prison de la base et les tuent à coups de sabre. Le 19 août, des officiels japonais s'envolent pour Manille. Ils doivent y rencontrer Douglas MacArthur, le commandant suprême des forces alliées. « Nous devons prier pour que la paix soit maintenue dans le monde », dit ce dernier. « On va également informer les Japonais des plans d'occupation. » MacArthur arrive enfin à Tokyo le 30 août. Il décrète immédiatement plusieurs lois. D'abord, aucun personnel allié ne doit commettre de voies de fait sur des Japonais. Ensuite, aucun membre du personnel allié ne doit manger la nourriture, devenue rare, des Japonais. Enfin, la possibilité de faire flotter le Inomaru, ou drapeau du soleil levant, est sévèrement limitée. La capitulation officielle du Japon sera signée le 2 septembre 1945. Sur le cuirassé USS Missouri. À bord, on trouve des représentants du Japon, évidemment, mais aussi des États-Unis, de la Chine, du Royaume-Uni, de l'URSS, de l'Australie, du Canada, de la France, des Pays-Bas et de la Nouvelle-Zélande. Les actes de capitulation mettent fin non seulement à la guerre du Pacifique et à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi au conflit qui oppose le Japon à la Chine depuis 1931. La signature des accords dure 23 minutes et est diffusée dans le monde entier. Désormais, l'occupation par les forces alliées peut donc commencer. Douglas MacArthur devient gouverneur militaire du Japon et il a fort à faire. D'abord, il faut rapatrier 6 millions d'hommes partis se battre pour leur pays. Le Japon est exsangue et il se voit raboté de trois quarts de ses terres, annexées lors de son extension en Asie. La famine guette, les villes sont détruites, les récoltes plus mauvaises que jamais. Le chômage et le marché noir explosent, de même que la prostitution et les maladies. Au plus fort de l'occupation, ce ne sont pas moins de 460 000 soldats américains qui vivent au Japon. 40 000 Britanniques y sont aussi casernés. Rapidement, on ouvre des enquêtes sur les crimes de guerre du Japon. Lors d'une rencontre avec le général MacArthur, le 27 septembre, l'empereur Hirohito propose d'en endosser la responsabilité, mais son offre est rejetée. Il ne sera jamais jugé. De son côté, Robert Oppenheimer ressent de plus en plus de doutes sur la mission qu'on lui a confiée dès 1943. Je pense qu'Hiroshima a été beaucoup plus coûteuse en vie et en souffrance, plus inhumaine qu'elle n'aurait dû l'être pour justifier la fin de la guerre, déclare-t-il. Et il ajoute, mais c'est facile à dire, après coup. Quand le président Truman le reçoit le 25 octobre 1945, il lui dit « Monsieur le Président, j'ai du sang sur les mains. » Truman ne dit rien, mais une fois Oppenheimer parti, il fait savoir à son cabinet qu'il ne veut plus qu'on le mette en présence du scientifique. « Après tout, il a simplement fabriqué la bombe », aurait-il affirmé. « C'est moi qui ai donné l'ordre de l'utiliser. » Dès septembre 1945, à peine la capitulation signée, des soldats américains retournent sur les lieux de l'explosion à Hiroshima et à Nagasaki. Ils prennent les mesures des radiations, s'intéressent aux retombées scientifiques des explosions, mais pas aux innombrables blessés touchés dans leur chair par l'arme atomique. Paul Tibbets, qui a largué la bombe, expliquera que les sites sélectionnés, Hiroshima et Nagasaki, l'avait été parce que les États-Unis voulaient pouvoir mesurer les effets de la bombe sur des cibles encore vierges. Et de fait, Hiroshima et Nagasaki avaient jusque-là été sciemment épargnés. À la fin de l'année 1945, les Hibakusha, nom utilisé pour tous les survivants des bombes nucléaires larguées au Japon par l'armée américaine les 6 et 9 août, sont invités à se présenter durant une émission pour la télévision américaine. Ils sont filmés. On leur demande de montrer aux caméras leurs blessures, leurs brûlures. Une nouvelle humiliation à laquelle beaucoup ne survivront pas. La ville d'Hiroshima fut, après la guerre, intégralement reconstruite. En 1949, le Parlement japonais la nomme « Cité de la paix ». Au cœur de la ville se dresse toujours le dôme de Genbaku, aussi appelé « Dôme de la bombe atomique ». Construit en 1915, le bâtiment abritait des bureaux d'entreprise quand la bombe a explosé. Il servait également de base militaire pour les hauts gradés. Ce n'est qu'en 1995 que les ruines furent classées « site historique ». Un an plus tard, elles furent inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Officiellement, le dôme de Genbaku s'appelle aujourd'hui le Mémorial de la paix d'Hiroshima. Le dôme est devenu un monument universel pour l'humanité entière, symbolisant l'espoir d'une paix perpétuelle et l'abolition définitive de toutes les armes nucléaires sur la Terre, selon l'UNESCO. Les États-Unis et la Chine, toutefois, se sont opposés à cette inscription, jugeant qu'elle était dénuée de toute perspective historique. En 1955, soit 10 ans seulement après la destruction de la ville et la signature de la capitulation, Hiroshima se dote d'un musée de la paix, entouré d'un vaste parc de 12 hectares, le parc du Mémorial de la paix. C'est là que chaque année se déroule la cérémonie commémorative en hommage des victimes. Le parc abrite également de nombreux monuments, et le cénotaphe qui contient le nom de toutes les victimes connues de la bombe. Une flamme de la paix y brûle depuis sa création. La ville, qui compte aujourd'hui 1,2 million d'habitants, est devenue le symbole du pacifisme. Chaque 6 août, à 8h15 exactement, on se souvient. En 2015, à l'occasion du 70e anniversaire de la tragédie, 55 000 personnes étaient présentes, parmi lesquelles Caroline Kennedy, la fille de JFK, alors ambassadrice des États-Unis au Japon. Un an plus tard, en 2016, alors qu'il est présent au Japon pour les réunions du G7, Barack Obama décide de se rendre à Hiroshima pour, à son tour, rendre hommage aux victimes. Il est le premier président américain en exercice à se rendre au Parc de la Paix. Un geste fort qui n'est pas forcément bien reçu dans son pays et qui crée la polémique parmi les vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Certains d'entre eux qui se sont battus contre l'armée japonaise ne veulent en aucun cas que ce déplacement puisse être considéré comme des excuses. Nagasaki fut, elle aussi, reconstruite après la guerre. De nouveaux temples y furent bâtis, tout comme des églises, puisque la présence chrétienne, bien ancrée, ne disparut jamais. La ville accueille elle aussi un parc de la paix et un musée de la bombe atomique. En 2022, près de 127 000 Ibakusha étaient toujours en vie. Leur moyenne d'âge était de 84 ans. L'un d'entre eux, Sunao Tsuboi, qui avait 20 ans en 1945, avait rencontré Barack Obama en 2016. Après avoir milité toute sa vie contre les armes nucléaires, après avoir dirigé l'Organisation nationale des survivants de la bombe atomique et de la bombe à hydrogène pendant plus de 20 ans, Sunao Tsuboi s'est éteint le 24 octobre 2021 à Hiroshima. Il avait 96 ans. Chez celles et ceux qui restent, qui transmettent cette mémoire, avant qu'elle ne disparaisse dans les couloirs du temps, on entend toujours le même message. Je veux juste qu'un tel acte aussi cruel ne se reproduise pas. La dissuasion nucléaire est un non-sens total, car cela repose sur la menace d'utiliser une arme atomique. Dans son livre « Face au néant » en 1975, le physicien et écrivain anglais Arthur Koestler écrivait ceci. « Depuis l'aube de la conscience jusqu'au milieu de notre siècle, l'homme a dû vivre avec la perspective de sa mort en tant qu'individu. Depuis Hiroshima, l'humanité doit vivre avec la perspective de son extinction en tant qu'espèce biologique. » C'est sur cette conclusion que se referme leur hache. Voilà pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Jacqueline Van Der Beek.
Leur H. Jean-Louis Lahaye.